Merci pour ce que tu nous donnes ce soir. Et je vous invite maintenant à regagner vos places, car nous avons la joie d'accueillir ce soir le père Guy-Emmanuel Carriot, qui est le recteur de la basilique d'Argenteuil, que beaucoup d'entre nous connaissons. Ce soir, il va nous introduire dans les merveilles du Seigneur, les merveilles de guérison et de salut que le Seigneur fait pour nous. Père Guy-Emmanuel, soyez le bienvenu dans notre paroisse et merci d'avoir accepté de venir nous enseigner. Mais avant, nous allons entendre le Père Thomas qui va nous proclamer l'évangile d'une guérison merveilleuse, celle aussi qui nous attend les uns et les autres. Père Guy-Emmanuel et Père Thomas, à vous.
De l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par quatre hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit : Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé « Tes péchés sont pardonnés » ou bien lui dire « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé « Je te le dis, lève-toi. » Prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant : « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu.
Il nous est toujours bon d'entendre l'Évangile, la parole du salut. On y voit Jésus aller et venir, poser les humbles actes de la vie quotidienne, poser son regard sur les habitants de son pays, ici Capharnaüm. C'est déjà beau, un Dieu qui va à Capharnaüm. Un village, il est peut-être grand comme trois fois l'église dans un âme. Bon, c'est grand l'église dans un âme, mais ça fait quand même un petit village. C'est beau, un Dieu qui va à Capharnaüm. car s'il n'a pas hésité à s'installer durablement dans ce micro-village au bord du lac, nous ne pouvons avoir peur de lui ouvrir notre cœur, notre petit cœur. Il y sera autant à l'aise qu'à Capharnaüm, soyons-en sûrs. Oui, il nous est beau de contempler Jésus dans la Sainte Écriture, parce qu'il y révèle ce qu'il est. Il y révèle qu'il est Dieu. Et ici, ce soir, nous comprenons, en lisant cette page de l'Écriture, que Dieu veut nous guérir et nous sauver. Ce n'est pas rien, et je vous l'annonce ce soir, Dieu veut vous guérir et vous sauver. D'abord, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que Dieu peut nous sauver. Il est tout-puissant. Et le Christ, dans les évangiles, nous invite sans cesse à demander, sans nous lasser. De temps en temps, on a des gens qui viennent se confesser et qui disent « Oui, je le demande, mais jamais pour moi. » Alors, j'ai jamais compris ce truc-là. Où est-ce que, dans les Écritures, on dit « Il ne faut rien demander pour soi. » Mais si, il faut demander pour soi. Il faut demander pour les autres, il faut aussi demander pour soi. Quant à tous ceux qui ne demandent jamais rien à Dieu, eh bien, il y a un vrai problème. Parce que si on ne demande jamais rien à Dieu, c'est qu'on a tout. C'est qu'on est trop riche. Au contraire, il nous faut nous faire pauvres devant lui, attendant tout de son amour. Être devant lui les mains vides et joyeusement espérer en lui qui nous aime, espérer tout de sa plénitude à lui. Il peut tout, donc, et notre prière est un cri vers lui, un cri vers le Dieu vivant. Mais alors, comment demander la guérison? Faut-il la demander? Faut-il la demander pour soi? Faut-il la demander pour les autres? Alors, ce texte nous apprend quelque chose de très important. Il nous apprend ce qu'est l'intercession. La guérison de ce paralytique apparaît dans l'Évangile à la suite de beaucoup d'autres miracles. Le démoniaque, le lépreux, la belle-mère de Simon. Guérir la belle-mère, c'est quand même une preuve de toute-puissance de Dieu. Ainsi que beaucoup de malades atteints de divers maux. Ce miracle supplémentaire pourrait presque passer inaperçu. Et pourtant, il nous éclaire sur une dimension essentielle de notre vie chrétienne, celle de la prière d'intercession. En effet, ici, ce n'est pas le paralytique qui fait la démarche de venir à Jésus, ce n'est pas non plus Jésus qui le remarque, s'approche et lui propose son aide. Non, cette fois-ci, ce sont ses proches qui présentent le paralytique à Jésus. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon fils, tes péchés te sont remis. » On le voit, l'évangéliste veut parler de la foi, non du paralytique, mais de ceux qui le portaient. Car il arrive quelquefois, dit saint Jean Chrysostome, qu'on doit sa guérison à la foi d'autrui. Ça nous donne une sacrée puissance ce soir, je trouve. Afin de pouvoir le lui présenter, il ne se laisse pas décourager par les obstacles qui s'opposent à eux, la foule, le passage obstrué, l'handicap de leur ami. Rien ne les arrête. Ils affrontent les difficultés car ils savent que Jésus est la solution. Vérité, chemin et vie. Et je trouve que ce récit nous touche particulièrement aussi dans le silence du paralysé. On le sait, la maladie peut nous couper de notre entourage et de toute vie sociale. Elle peut tuer en nous l'espérance. Combien parmi les malades ont perdu toute force, tout espoir, et ne savent même plus où aller pour guérir. Et on le sait, quand le corps est atteint, eh bien, il perd en beauté extérieure, en performance, en résistance. Je trouve qu'à notre époque où le soin du corps n'a jamais été aussi compétitif, la différence qu'on est quand on est malade, qu'on représente, quand voilà, on est atteint dans nos forces vives par la maladie, cette différence pourrait presque apparaître comme une impureté, une exclusion d'office. On se retire des affaires, on se retire de la vie sociale. Eh bien, ces quatre hommes nous donnent un témoignage d'intercession auprès de Dieu pour les personnes qui sont dans l'incapacité de prier, l'incapacité de s'offrir et de croire. Oui, l'intercession est une prière de demande qui nous conforme de près à la prière de Jésus. Et c'est en ça que c'est très beau. C'est lui l'unique intercesseur auprès du Père en faveur de tous les hommes et des pécheurs en particulier. Mais ce soir, on va s'unir au Christ intercesseur, si vous voulez bien. C'est-à-dire, et c'est beau aussi, on va prier comme Jésus. On va prier face au Père avec Jésus, dans la force du Saint-Esprit. Qu'il est beau ce soir de porter nos frères et sœurs souffrants et malades auprès du Seigneur. Alors, faut un peu des muscles, faut un peu de l'ingéniosité. Vous avez vu, il découvre le toit pour faire descendre le brancard. Ça n'a pas dû être facile, cette histoire. C'est résumé en deux petits versets dans nos textes d'évangile. Ça a dû prendre un temps de dingue. Découvrir le toit, faire glisser le malade. Enfin, on imagine que Jésus était déjà en train de parler. Il y avait d'ailleurs des gens très bien, les pharisiens au premier rang, etc. Et ben voilà, les quatre amis, ils n'ont pas peur du ridicule, hein. Ils font taire tout le monde. Ils arrêtent Jésus lui-même. Ils arrêtent le Verbe, vous vous rendez compte ? Pour descendre leur ami parce qu'ils l'aiment et qu'ils ont confiance en Jésus. Ça nous donne une belle feuille de route pour la veillée de ce soir, je trouve. Alors, il y a l'intercession et puis il y a notre foi personnelle aussi. Par la foi, nous sommes invités à tout miser sur Jésus. À ne rien miser en dehors de lui, vous voyez ? Il ne faut pas avoir plusieurs intercesseurs. C'est tout pour Jésus ou rien par Jésus. Notre foi n'est pas d'abord un attachement à des idées, aussi bonnes soient-elles, à des valeurs, aussi nécessaires soient-elles. Non, notre foi est d'abord un attachement exclusif à Jésus-Christ. Celui qui, comme dit Paul, celui qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Ce soir, chers frères et sœurs, il nous faut descendre nous-mêmes et y travailler aussi notre réponse. Parce que la foi, si elle est un attachement exclusif à Jésus, est d'abord une grâce à demander et à recevoir. Demandons-la, fais grandir en moi la foi, Seigneur. Avant tout, un don de Dieu à l'homme, une grâce, et puis aussi une réponse de l'homme à Dieu. Don de soi-même aux autres, dans une ouverture pleine de confiance. Et c'est aussi le but de cette veillée. Comme le paralytique, il va falloir, je vous préviens, nous redresser et répondre joyeusement au Christ en formulant dans le secret de notre cœur notre réponse, notre intention, notre offrande. Il y a une question difficile qu'on peut aussi se poser. C'est s'interroger sur le sens de notre maladie. On peut se demander pourquoi Jésus, par exemple, commence par annoncer à cet homme le pardon de Dieu. Objectivement, je pense que le paralytique n'attendait pas ça, mais d'être redressé sur ses jambes. Alors, pour décrypter le sens de cette scène, il faut savoir qu'à l'époque, on pensait que si cet homme était malade, ça devait être de sa faute ou de celle de ses parents. Comme si la souffrance causée par la maladie ne suffisait pas, il faut en plus souvent traîner une conscience coupable. Il peut alors, et que c'est triste, ressentir son état comme une punition et un rejet de Dieu. Les effets de la maladie apparaissent à lui d'abord au niveau physique, mais ils ne sont pas moindres sur le plan psychique et social. Comment oser s'approcher de Dieu lorsque la maladie le place au rang des pécheurs ? Et la même question peut se poser en termes plus actuels. Aujourd'hui encore, des personnes s'interrogent sur le sens de leur maladie, de leur malheur, qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? En général, quand on ne comprend pas ce qui arrive, on cherche le responsable et on l'invente si on ne le trouve pas. Qu'ai-je donc bien pu faire au bon Dieu? Chers amis, je vous le dis clairement, cette question n'est pas bonne. Et cette question n'est pas digne d'un chrétien. C'est comme si on allait accuser Dieu en creux de nous envoyer du mal. Or Dieu est innocent de tout mal. Aucun mal ne peut sortir de lui. Aucun mal ne peut sortir de Dieu, chers frères et sœurs. Au contraire, Dieu est capable, et ça c'est son alchimie secrète, de faire sortir du bien du mal. C'est sa manière d'être victorieux. Il est capable d'un collecteur d'impôts de faire un de ses apôtres. Il est capable, à partir d'un persécuteur de chrétiens, Paul de Tarse, d'en faire le plus grand propagateur de l'Évangile. Il est capable, et c'est là la source de tout, évidemment, dans les ténèbres du tombeau, de faire jaillir la vie. Alors, imaginez ce qu'il peut faire de vos cœurs, chers frères et sœurs, et ce qu'il peut faire de vos cœurs ce soir. Revenons au paralytique. Les premiers mots de Jésus annoncent la miséricorde de Dieu et peuvent opérer déjà une première libération dans le cœur du paralytique. Tu n'es pas responsable de ta maladie. Tu es libre de tous tes péchés. Tes péchés te sont pardonnés. Le paralytique est remis debout dans son cœur, rétabli dans sa dignité de fils de Dieu, avant de se remettre debout sur ses jambes. L'annonce du pardon le libère du boulet de culpabilité qu'il traînait derrière lui. Entendre l'annonce de l'amour de Dieu pour soi n'est pas rien. C'est l'expérience que vous êtes aussi invité à faire ce soir, en redécouvrant le Dieu vivant qui vous aime avec tendresse. Expérience inoubliable qui remet une femme ou un homme debout et permet de retrouver la vie et la joie. C'est ce qui vous sera proposé tout à l'heure auprès des prêtres qui vous proposeront le pardon. Enfin, Dieu, on s'est posé la question de savoir si Dieu pouvait guérir. La réponse est oui. On s'est posé la question du sens de nos maladies. Maintenant, Dieu veut nous sauver. Derrière tout désir de guérison, et c'est normal que ça vienne de notre cœur, il doit y avoir aussi ce désir de saisir toutes les promesses de Dieu et de grandir en sainteté. La santé elle-même ne suffit pas comme grâce. Elle pourrait même devenir une idole dangereuse. Ainsi, pour guérir intérieurement, extérieurement, nous avons grand besoin de ce désir intérieur d'être saint. C'est cela le plus important. Et souvent, on a peur de s'approcher de Dieu, même pour le prier. On a peur que nos demandes le rendent impur. Nous n'osons pas lui avouer nos pardons pour les plus ténébreux. Et il y a là un grand manque de foi de notre part. Dieu est lumière, et la lumière fait disparaître les ténèbres. N'ayons pas peur d'exposer nos pauvres vies à l'incandescence de sa lumière. Nous n'en sortirons pas indemnes de grâce. N'ayons pas peur non plus de nos manques de foi. On manquera toujours de foi. On manquera toujours de foi tant le mystère de Dieu nous dépasse infiniment. Oui, tous nous portons en nous des maladies. Nos corps peuvent souffrir, mais nos âmes également, et de manière plus grave encore. Dieu peut donner, comme aux paralytiques, la guérison physique en nous sauvant entièrement. Mais il peut également nous sauver sans nous guérir physiquement. Pour que Dieu nous guérisse, il faut que cette guérison soit utile au salut de notre âme et à la volonté de Dieu. Jésus n'identifie pas guérison et salut. Il n'est pas d'abord venu pour réaliser des guérisons. Il suffit de le regarder dans l'Évangile. Il fait des guérisons, mais il ne guérit pas tout le monde. Jésus n'a jamais fait de la guérison la preuve du salut ou la condition de celui-ci, mais bien un signe du règne de Dieu. Les Évangiles rapportent de nombreux récits de miracles, mais Jésus n'a pas guéri tout le monde. Ensuite, il n'a pas promis une vie sans souffrance. Lui qui disait à ses disciples que pour le suivre, il fallait prendre sa croix. Parce qu'il savait regarder la nature, lui, Il a dit, le grain qui veut porter du fruit doit mourir d'abord. Lui-même, pour lui-même, n'a pas cherché à éviter la souffrance. Comme nous l'avons vu plus haut, peut-être que cela nous dérange. Parce que dans le fond de notre être, on aimerait un Dieu tout puissant. Alors oui, il était puissant, hein. Invulnérable, qu'il intervienne efficacement dans tous nos soucis et résolve tous nos problèmes. En fait, on rêve d'un Dieu païen, à mi-chemin entre Jupiter et le Père Noël. Les deux ont la barbe, mais c'est leur seul point commun. Hein. D'un côté, on a le Dieu qui balance des éclairs à droite et à gauche, une sorte d'expression pensée à la personne la plus coléreuse que vous connaissiez. Multiplié par 100, voilà, vous avez le Dieu Jupiter. Et de l'autre côté, il y a le Père Noël. Alors, il est brave, le Père Noël, mais totalement impuissant. C'est l'incarnation de l'impuissance. C'est naze. Pardonnez-moi, c'est naze. L'un et l'autre sont nazes. Tout autre est le Dieu révélé par Jésus-Christ. Tout autre est ce Dieu-là. Jésus se présente à nous humble, de sa naissance à sa mort, né dans une crèche et mort sur une croix. C'est un Dieu qui descend. Il descend vers nous. Alors que nous, on aimerait monter vers Dieu par nos sacrifices, nos pèlerinages, nos prières. Tout ça, c'est très bien. Mais c'est inutile si on ne laisse pas d'abord Dieu descendre jusqu'à nous et nous rejoindre. Que c'est beau de voir Jésus lever les yeux pendant le lavement des pieds. Que c'est beau de voir Jésus élever le regard vers Zachée, grimpant dans son arbre. Ressuscité, vainqueur du mal et de la mort par l'amour, le Christ nous a ressuscités avec lui, mais sans nous dispenser de passer chacun d'entre nous par un chemin semblable au sien, c'est-à-dire un chemin à la fois fait de plénitude et de béance, de fragilité et de fécondité, un vrai chemin de Pâques. Dans le cas de ce paralytique, la guérison apparaît comme un signe que Jésus donne, un signe visible et constatable, c'est un signe de son identité profonde. Il est Dieu et il a le pouvoir de pardonner les péchés. Le plus important reste le salut. Opéré par le pardon des péchés. Demandons à Dieu le salut, et selon les dispositions de sa grâce, il nous donnera tout ce dont nous avons besoin pour répondre à sa volonté, y compris la guérison du corps, si celle-ci est utile à notre salut. Chers frères et sœurs, nous sommes invités ce soir à un acte de foi, à un acte d'abandon dans les mains de Jésus. Que l'Esprit Saint, qui est la propre vie de Jésus, son propre souffle, vienne tout emporter de nos péchés et de nos paralysies à aimer et à louer Dieu. Seigneur, nous osons te le dire, nous avons besoin de signes pour croire. Donne-nous le signe de la guérison si tu le veux et si cela est utile à nos âmes. Donne-nous le pardon de nos péchés, car c'est pour cela que tu as offert ta vie divine sur la croix, pour détruire les œuvres du diable et laver dans ton sang nos âmes abîmées. Louange te soit éternellement rendue. Amen.
Amen.
Descends dans mon cœur, sans doute. Descends dans mon cœur, sans doute. Viens, mon esprit, sans doute.
Père, entrons dans notre cœur pour accueillir celui qui veut venir nous visiter. Laissons-le descendre dans notre cœur. Ouvrons-nous à sa grâce. Ouvrons-nous à sa miséricorde. Pour cela, nous allons vous proposer différentes démarches. Vous pouvez demander le sacrement de réconciliation. Il y aura 4 prêtres qui sont là pour vous accueillir au nom du Seigneur, pour que vous puissiez recevoir la bénédiction et le pardon de Dieu. 2 prêtres se tiendront en bas, à ma gauche, à votre droite, et 2 en haut. Pour ceux et celles qui le souhaitent, qui souhaitent demander au Seigneur des grâces particulières pour elles-mêmes, pour leur corps, pour leur esprit, pour leur âme, il y aura des binômes de prières qui vont s'installer. Il y en aura 2 en bas et il y en aura 4 en haut. N'hésitez pas à vous approcher du Seigneur. Vos frères et vos sœurs qui prieront pour vous sont là pour vous porter devant le Seigneur, pour que le Seigneur, avec votre prière, puisse entendre votre demande. Vous pouvez aussi vous approcher, il y a des pains de la parole. Mais avant, il y aura l'exposition du Saint-Sacrement. Et vous pouvez ouvrir votre cœur dans le silence, dans la contemplation de ce merveilleux mystère de la présence de Jésus dans notre Église, maintenant.
À votre disposition, il y aura aussi des petites réunions. Des petits lumignons que vous irez chercher et que vous pourrez tout doucement amener à Jésus comme un geste pour lui demander la lumière pour votre vie intérieure. Parmi les écoutants, les priants, Hervé et moi, on sera ensemble et nous proposons aux couples, s'il y a des couples parmi vous, et qui désire recevoir la prière, de venir ensemble nous trouver tous les deux. On sera là-haut. Quant aux autres binômes de prière, bien sûr, abusez de la prière des frères. C'est fait pour vous. C'est fait pour demander à Jésus, comme il l'a dit le Père Guillaume, de nous laisser transformer et de nous laisser laver intérieurement pour obtenir un temple magnifique, un temple intérieur magnifique où il va pouvoir résider.
Maintenant, nous allons accueillir le Seigneur dans sa présence dans le Saint-Sacrement. Donc, je vous invite à vous préparer à accueillir celui qui est tout. J'invite les clients à s'avancer.